Chers auditeurs, bonsoir à tous. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de Ramadan. Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Et je suis heureux de vous accompagner durant ce mois de Ramadan par des exposés courts de 10 minutes où j'essaierai de réfléchir avec vous pendant ce mois de Ramadan au sujet de tous les problèmes que nous vivons dans toutes les sociétés musulmanes depuis les années 2004-2005. En effet, peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'ont déjà écouté pendant ces deux années 2004-2005, toujours pendant le Ramadan, où j'avais introduit une initiation, non pas à l'islam, comme religion, comme pratique de la croyance, mais une initiation à la façon de comprendre l'évolution historique de l'islam comme religion, mais aussi de l'islam comme une grande tradition de pensée. Et j'avais expliqué déjà en 2004-2005 les grands retentissements de la vie politique que traversent ou que subissent tous les musulmans sur la terre, dans leur propre société, face à leurs propres états, des états qui ont à faire face aux problèmes de chaque société, mais aussi aux problèmes que pose la vie politique, sociale, économique à toutes les sociétés contemporaines qui sont engagées, toutes sans exception, dans la grande aventure humaine de la mondialisation. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit et qui a été diffusé plusieurs fois par Radio Orient, ce que j'avais dit durant les causeries données au cours du Ramadan de 2004 et 2005. Je vais cette fois-ci accentuer l'analyse des problèmes qui continue de se poser de façon violente dans toutes les sociétés musulmanes, et nous allons essayer de comprendre les conséquences, à beaucoup d'égards très graves, sur l'islam comme religion, de tous les événements politiques que nous vivons ensemble face à un Occident qui pratique toujours une politique de non-compréhension vis-à-vis non seulement des sociétés qui se réclament de l'islam, mais vis-à-vis de ce que on appelle depuis quelque temps déjà le reste du monde. Il y a l'Occident d'un côté qui poursuit son histoire triomphante, son histoire basée sur la puissance et les volontés de puissance, mais une histoire aussi qui est faite de très grandes et très émouvantes et très pleine d'espérance pour la condition humaine, des avancées dans la connaissance scientifique, des avancées dans la biologie, qui retentissent bien sûr sur les promesses de vie, de prolonger la vie des hommes sur Terre, grâce à des découvertes scientifiques de plus en plus impressionnantes et de plus en plus utiles à tous les hommes. Ces découvertes se font en Occident. Il y a aussi les découvertes technologiques. On ne cesse de mettre au point, d'inventer des outils technologiques qui améliorent la vie des hommes, la vie matérielle des hommes. Et toutes les sociétés profitent de ces inventions. C'est le côté positif de l'Occident. Mais d'ores et déjà, et nous verrons que nous devons absolument réfléchir au fait que seules les grandes puissances occidentales, qui ont commencé leur évolution scientifique, culturelle, intellectuelle depuis le XVIIIe siècle, sont aujourd'hui en mesure de poursuivre ce grand combat de l'esprit humain pour inventer toujours des conditions matérielles plus confortables pour l'existence humaine. Mais je ne vois pas, nous ne voyons pas de société musulmane qui participent à partir des habitants de ces sociétés, des citoyens de ces sociétés, contribuer à cette grande aventure de l'esprit qu'est la connaissance scientifique, les inventions scientifiques et surtout les changements considérables introduits par une meilleure connaissance du corps humain, une meilleure connaissance de la psychologie des hommes, une meilleure connaissance aussi de la manière d'améliorer ce régime politique vers lequel toutes les sociétés tendent et aspirent et qui est le régime démocratique. Là aussi, c'est l'Occident qui fait des progrès dans les régimes démocratiques. Et nous savons qu'il y a des moments de crise dans les régimes démocratiques. Mais l'Occident a cette force de vivre ces crises comme des crises de croissance et non pas des crises de recul. Et surtout pas des crises d'échec total. Il y a des échecs, malheureusement. Il y a des échecs en particulier, nous le verrons, dans la politique. Mais il y a cette dynamique historique de l'Occident qui porte l'Occident toujours vers l'avant et nous allons voir que les sociétés musulmanes et les sociétés non musulmanes et non occidentales, ces sociétés-là ne participent pas encore à cette grande dynamique de l'histoire. Nous reviendrons sur cela demain, Inch'Allah. Bonsoir à tous, Sahaf Tolkoum Jamian, heureux de vous retrouver donc pour la deuxième fois. J'ai expliqué dans la première émission que nous consacrons une session chaque jour à l'analyse et à la connaissance de ce que nous avons appelé l'islam hier, demain. C'est le titre général de toutes les émissions que nous allons avoir jusqu'à la fin du Ramadan et j'aimerais vous expliquer le sens de ce titre, ce que je n'ai pas fait la dernière fois. Islam hier, demain. Cela veut dire que nous n'allons pas nous contenter de l'islam tel qu'il s'exprime depuis l'introduction ou l'émergence de la révolution islamique en Iran avec Khomeini. Je vous rappelle en effet que Khomeini a pris le pouvoir en Iran en février 1979. C'était une grande date, non seulement dans l'histoire de l'islam comme religion, mais dans l'histoire de toutes les sociétés qui se réfèrent à l'islam pour orienter leur action historique, leur propre histoire, puisque beaucoup de musulmans s'inspirent des enseignements de l'islam, des enseignements de ce qu'on appelle la charia, pour orienter la politique de leur pays, et aussi pour certains musulmans, fournir un modèle historique qui soit une alternative, c'est-à-dire un autre choix, un autre modèle, face à ce que nous connaissons sous le nom de modèle de l'Occident. Il y a là donc une confrontation entre une prétention des musulmans contemporains à partir de la révolution iranienne à forger et à illustrer, à mettre en œuvre une politique, un régime politique inspiré des enseignements de l'islam qui évidemment sont différents des enseignements et de l'histoire que vit l'Occident depuis le XVIIIe siècle en particulier, c'est-à-dire depuis les grandes révolutions démocratiques. Il y a là une confrontation qui touche par conséquent à des problèmes extrêmement complexes, extrêmement difficiles à traiter, parce que ça ne touche pas seulement le régime politique, car tout régime politique, pour être viable, doit être accompagné d'un travail sur le plan du droit constitutionnel, du droit des sociétés, sur le plan de la connaissance de la démocratie et de ce que requiert la culture démocratique et les institutions démocratiques. Et aussi, il faut des connaissances sur le plan de l'économie moderne pour faire marcher l'économie à la mesure de toutes les inventions et de toutes les institutions et les procédures de production économique, d'échange économique que nous connaissons et qui se sont développées en Occident depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Or, Or, nous savons très bien que sur ce plan-là, sur le plan politique, comme sur le plan de la pensée juridique, sur le plan des institutions démocratiques, les sociétés musulmanes sont très en retard par rapport à ce que nous observons en Occident. Donc, cette confrontation de deux modèles d'histoire qui continue à s'affirmer dans un courant de pensée et un courant de militantisme dans les sociétés musulmanes jusqu'à nos jours, nous pose énormément de problèmes. Et ces problèmes-là, nous ne les avons pas suffisamment analysés pour en faire un objet d'enseignement, un objet d'explication à tous les citoyens dans le monde musulman qui sont concernés par, bien sûr, la mise en œuvre d'une politique de démocratisation, d'une politique économique moderne, d'une politique culturelle moderne, d'une politique moderne de la recherche scientifique dans le domaine extrêmement important de ce qu'on appelle les sciences de l'homme et de la société, sans parler bien sûr des grandes sciences qui s'occupent des inventions technologiques comme je l'ai déjà mentionné dans notre causerie d'hier. Donc le fait de comparer et le fait de initier une sorte de compétition, de rivalité entre un modèle islamique de production de l'histoire des sociétés humaines face à un modèle occidental qui fonctionne déjà et qui ne cesse, comme je l'ai expliqué, de faire des progrès, d'introduire des corrections, d'introduire des réformes constantes dans tous les pays de démocratie avancée. Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe pour la construction de l'Union européenne. La construction de l'Union européenne est un événement historique tout à fait considérable. C'est une deuxième révolution en Europe qui est équivalente à la révolution de ce qu'on appelle la raison des Lumières au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'Europe est en train de dépasser les régimes de ce qu'on appelle l'État-nation. L'État-nation, depuis le XVIIIe, XIXe siècle, travaille à l'intérieur de frontières politiques en compétition avec les autres États-nations européens, d'où les guerres intra-européennes au XIXe siècle et au XXe siècle. Et donc l'État-nation, c'est à la fois un progrès, mais en même temps des limites imposées à la dynamique de la modernité qui, elle, dépasse les frontières politiques, dépasse les frontières culturelles, dépasse les enfermements nationaliste dans la répétition d'une histoire particulière à une nation qui va servir de tremplin idéologique pour mener des guerres contre un passeport national. Aujourd'hui en Europe, ils ont un passeport européen. Et l'Europe a vocation à une ouverture à d'autres peuples, à d'autres citoyens qui peuvent venir d'autres nations. On parle, par exemple, depuis longtemps déjà, de l'adhésion de la Turquie, qui est une nation musulmane, à l'Union européenne. Et il y a vocation des peuples méditerranéens, des sociétés méditerranéennes, à venir aussi bénéficier de cette révolution de la citoyenneté que l'Europe est en train d'introduire. Nous reviendrons sur ce sujet qui est extrêmement important pour faire prendre conscience des enjeux de la confrontation entre le modèle islamique et le modèle de l'Occident. Je vous dis à demain, je l'espère, et je vous incite à être toujours présent à cette émission parce que chaque émission est rattachée aux précédentes et il y a un progrès dans tout ce que nous allons essayer d'apprendre ensemble jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et si vous manquez une séance, deux séances, j'espère que vous aurez l'occasion de la réécouter une autre fois, mais il est préférable que vous soyez présent au jour le jour pour bien bénéficier de ce qui prend l'allure d'un cours sur Islam hier, demain. Bonsoir à tous, nous voilà donc réunis, compromis, pour poursuivre notre analyse du titre de ces émissions, Islam hier, demain. Le passé de l'islam. Et le passé de l'islam, c'est 15 siècles d'histoire. C'est depuis 610, début du 7e siècle, jusqu'à 2007 où nous sommes. C'est une longue histoire à laquelle nous aurons à faire référence. Évidemment, nous ne pourrons pas tout dire au sujet de cette histoire. Et quand je dis histoire, ce sera l'histoire de la pensée islamique, c'est-à-dire les contributions faites par les penseurs de l'islam, par les exégètes, ceux qui s'occupent de l'exégèse du Coran, tafsir du Coran, ceux qui s'occupent de la construction du fiqh, c'est-à-dire du droit musulman, ceux qui s'occupent de l'étude de la langue arabe, qui est la langue du Coran, qui s'occupent de la grammaire, qui s'occupent de ce qu'on appelle la rhétorique, qui s'occupent de ce qu'on appelle la stylistique, le style du discours coranique, etc., etc. Il y a aussi les historiens de l'islam, il y a aussi l'histoire du hadith, c'est-à-dire des traditions prophétiques, il y a aussi ce qu'on appelle la théologie, ilm al-kalam. La théologie est une science d'une très très grande importance. J'y consacrerai toute une causerie. Et il y a, face à la théologie, la philosophie, que les penseurs musulmans ont beaucoup pratiqué entre le 7e siècle et le 13e siècle. La philosophie est une discipline tout à fait essentielle à la pensée islamique. Je vous rappelle à cet égard, au sujet de la philosophie, que le pape Benoît XVI a fait cette fameuse conférence où il a parlé de la foi chrétienne et il a parlé de la foi chrétienne qui a toujours utilisé la raison philosophique pour pouvoir contrôler les contenus de la foi et faire progresser les contenus de la foi. Car si la raison philosophique, qui est spécialisée dans la manière de poser des questions, pas de fournir nécessairement des réponses, mais de poser des questions pertinentes pour se demander est-ce que ma foi repose sur une rationalité que tous les humains accepteraient, ou bien c'est quelque chose qui est particulier seulement à la foi musulmane. Voilà une question tout à fait fondamentale qui nous ouvre les portes de ce qu'on appelle le dialogue entre les religions, et aujourd'hui on parle beaucoup du dialogue entre les religions. Or, il se trouve que, on le verra, les musulmans ont beaucoup pratiqué la pensée philosophique, la raison philosophique, jusqu'à Ibn Rushd. Après Ibn Rushd, qui est mort, je vous le rappelle, en 1198, les musulmans, la pensée islamique, cesse de s'intéresser à la raison philosophique. Et ça, ça a coûté très cher, et c'est en train de coûter très très cher à l'islam contemporain. Parce que l'islam contemporain ne sait pas poser des questions à soi-même. Et une religion qui se passe des questionnements de la raison théologique et des questionnements de la raison philosophique, eh bien, la foi est soumise aux grandes dérives de l'idéologie politique. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. L'idéologie politique, les combats politiques sont en train de manger, de dévorer, si je puis dire, l'essentiel de l'enseignement de l'islam comme religion, parce que l'intervention de la théologie avec la philosophie, parce que la philosophie et la théologie dialoguent sans cesse entre elles, parce qu'elles se regardent mutuellement, en se posant mutuellement des questions que chacun va relever et étudier pour faire progresser la foi religieuse d'un côté avec la raison théologique et philosophique. Ça, c'est un point important. Je le dis avec rapidité parce que nous n'avons que 10 minutes. Je reviendrai sur ce point parce que il faut absolument que nous comprenions les origines et les causes des drames que vivent les sociétés musulmanes depuis pratiquement une quarantaine d'années. Il faut expliquer les raisons de ces drames et ne pas nous contenter de nous lamenter sur des tragédies que nous vivons, tant de morts, tant d'assassinats, tant de destructions. Il faut absolument nous mettre au travail pour essayer de réintroduire dans l'islam une activité intellectuelle et scientifique qui, malheureusement, a quitté les horizons de la pensée islamique. Ceci dit, islam hier, demain, donc je viens d'expliquer ce que veut dire hier, c'est le retour au passé, mais un retour au passé pour poser des questions à ce passé et pour savoir ce qui s'est passé pour que nous puissions comprendre aujourd'hui ce qu'il convient de faire pour redonner une dynamique historique aux sociétés musulmanes et à la vie des musulmans dans leur temps d'aujourd'hui. Demain justement, de quoi demain sera-t-il fait? Est-ce que nous nous préparons suffisamment pour affronter les problèmes de demain? Car les problèmes de demain, les économistes par exemple, sont en train de les poser d'une manière très claire. Mais ces économistes, comme le reste de l'activité scientifique, ils se trouvent en Occident, ils ne se trouvent pas dans le monde musulman. Et le monde musulman attend ce qui peut venir de l'Occident, parce que nous n'avons pas suffisamment d'économistes, et les économies des pays musulmans sont encore des économies attardées, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, et ça aussi, ça fait partie de la situation actuelle des sociétés musulmanes par rapport aux sociétés occidentales. C'est donc cela que signifie le va-et-vient entre les problèmes d'aujourd'hui, de notre présent, qui nous ouvre à la fois vers l'étude du passé et nous prépare vers l'étude de l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour que nous puissions avoir une meilleure situation dans le monde dans les 20 prochaines années? Que deviendra la démographie dans les sociétés musulmanes dans les 20 prochaines années? Que deviendra cette valeur qu'est le travail pour tous dans les sociétés musulmanes? La gravité du chômage dans toutes les sociétés musulmanes ne cesse d'angoisser les jeunes générations, et nous savons tous les problèmes que cela entraîne pour l'émigration, le désir d'émigration, le désir d'Europe à tout prix pour échapper précisément à l'absence de travail dans les sociétés musulmanes. Le travail est une valeur première et c'est un droit premier pour tout citoyen dans la société. Voilà, c'est un immense problème. Nous y reviendrons, et donc à demain si vous le voulez bien. Bonsoir à tous. Sahaftoukoum jami'an. Nous nous retrouvons donc pour cette quatrième émission qui sera consacrée à un rappel forcément très rapide de quelques dates extrêmement importantes que nous devons avoir à l'esprit pour essayer de suivre les exposés à venir et les rattacher, comme je l'ai expliqué la dernière fois, au passé. L'islam hier, demain. Eh bien, parmi ces dates, bien sûr, les deux premières dates que tout musulman doit connaître, c'est 610, 622 et 632. 610, c'est le début de ce que les musulmans appellent la révélation. Al-Wahy, al-Tanzil, Tanzil al-Qur'an, la descente de la parole de Dieu sur terre, révélée, médiatisée par le prophète Mohammed. Ça commence en 610. Nous sommes au début du 7e siècle. Alors, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui a existé avant 610 et partir de 610 comme si tout ce qui va advenir à travers le discours coranique et tout ce qui va advenir à travers l'action du prophète à la Mecque et à Médine, et ensuite la grande histoire des conquêtes musulmanes qui vont commencer dès la mort du prophète en 632, il ne faut pas perdre de vue que l'émergence du discours coranique en Arabie, à la Mecque et à Médine en particulier, continue une très longue histoire qui s'est passée avant. Il y a une histoire religieuse du monothéisme qui commence avec ce qu'on appelle la Bible, et ce que le Coran appelle « Tawrat ». Les livres, le Pentateuque, les cinq livres premiers de la Bible. Et la Bible, c'est aussi, le Coran le reconnaît, la parole des prophètes, la Bible. Il faut aujourd'hui, si véritablement on s'intéresse à la religion, il faut aujourd'hui savoir qu'il y a eu cette longue histoire que le Coran évoque avec beaucoup d'insistance, tout le temps, presque dans toutes les sourates. Mais il ne suffit pas de lire le Coran et de passer. Il faut consacrer du temps au niveau de l'enseignement à l'école, dans les lycées, aux universités, à l'étude de tous les grands textes fondateurs des trois grandes religions monothéistes. Ceci est une nécessité d'aujourd'hui. Il s'organise à travers le monde depuis les années 1960, et celui qui vous parle a participé à un grand nombre des conférences internationales, des séminaires, des colloques qui s'organisent presque chaque jour à travers le monde sur ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Or, j'ai constaté chaque fois que les musulmans, quand ils vont vers ce dialogue, ils parlent certes de l'islam, c'est leur religion, qu'ils ne connaissent pas toujours très bien d'ailleurs, ils n'en connaissent pas l'histoire, mais ils connaissent encore moins l'histoire du judaïsme et l'histoire du christianisme. Ça, c'est une chose que tout le monde peut observer aujourd'hui. Les musulmans se plaignent constamment de l'islamophobie de l'Occident, de ce que l'Occident ne connaît rien à l'islam. Bon, soit, c'est vrai, mais ils sont en train maintenant de faire des efforts réels, surtout depuis le 11 septembre. En Amérique, toute l'Amérique, en Europe, toute l'Europe, on est en train de parler beaucoup des religions. Mais du côté musulman, il faut constater que dans les écoles des pays musulmans, au Maghreb par exemple, que nous connaissons tous bien, et même au Liban, qui est une société multiconfessionnelle, où il y a toujours des chrétiens et des musulmans, des chiites et des sunnites, des maronites, catholiques, orthodoxes, etc. Tout est représenté, c'est une très grande richesse au Liban, mais c'est le régime des tawaïf, des groupes séparés qui enseignent chacun l'histoire orthodoxe de la foi de chaque taïfa. Et ça, ça n'est pas bien du tout. Et ça, ça se paye cher, parce qu'à force d'être fermé sur l'histoire de sa propre foi, de sa propre tradition, en ignorant celle du voisin du palier, en l'ignorant complètement, eh bien, c'est le terrain préparé au déchirement que nous sommes en train de vivre partout. Et je ne dirais pas particulièrement au Liban, mais ce qui personnellement m'a toujours attristé dans ce Liban que j'aime et que j'admire en raison de ce pluralisme des références historiques à des religions qui ont toutes leurs richesses, mais ces richesses ne sont pas échangées. Et c'est pour cela que un historien de la pensée islamique qui connaît la valeur de toutes ces richesses, eh ben, il est triste de constater les fermetures, les frontières rigides, et qui vivent dans ce que j'ai appelé, à cause de ce constat que je fais partout, l'ignorance institutionnalisée. L'institution religieuse elle-même maintient cette ignorance. En refusant d'enseigner, non pas les contenus de foi particulière à chaque religion ou à chaque confession, comme pour les chiites et les sunnites, ils n'ont pas échangé, les chiites et les sunnites musulmans, depuis pratiquement le XIe siècle, ils n'ont pas échangé leur connaissance, la connaissance de leur tradition, parce qu'il faut savoir que les recueils de hadith des sunnites, Bukhari, Muslim et les autres, sont différents des recueils de hadith des chiites imamiens, de Kulaymi, d'Ibn Babouya, d'Abu Ja'far Tosi, personne ne mentionne l'autre. Pire que cela, chaque fraction considère que les hadiths de l'autre ne sont pas authentiques, ce qui est d'une extrême gravité. Et je n'ai pas besoin de rappeler aux auditeurs, de vous rappeler, chers auditeurs, les tragédies que nous vivons en Irak et ailleurs. Je suis obligé, hélas, de couper, comme Shahrazad, فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. Alors à la prochaine soirée. Bonsoir à tous. Ftolkom Saïd, Mabrouk. Nous continuons donc le fil de notre étude, ou on peut l'appeler aussi une sorte de récit. J'ai insisté sur la nécessité de regarder avant 610 sur l'histoire des religions et des cultures de tout le Proche-Orient en 610, quand le prophète Mohammed commence à énoncer le Coran, le discours coranique, ce qui va devenir le discours coranique, devant des auditeurs arabes qui étaient des auditeurs en majorité païennes. C'était des païens. Al-Mushrikoun, dit le Coran. Ceux qui associent des divinités à Dieu. Et le mot Mushrikoun revient très souvent dans le Coran et il va s'engager une grande polémique, justement, entre le Coran et les représentants du polythéisme à la Mecque. Je n'ai pas le temps d'insister sur tout cela. C'est très important cependant à connaître. Peut-être, si nous avons le temps, y reviendrai-je. 622, grande date, parce que le prophète Mohammed quitte la Mecque, justement, pour des raisons d'hostilité qu'il rencontrait à la Mecque, pour aller à Médine. La phase de Médine est extrêmement importante et elle va durer 10 ans, de 622 à 632, et les musulmans ont choisi la date de 622 pour désigner l'ère égyrienne, l'ère musulmane, de narrer l'histoire et de regarder l'histoire des hommes en société. Il y a avant l'Égypte, après l'Égypte, comme il y a avant le Christ et après le Christ pour les chrétiens, l'ère chrétienne. Et les juifs ont une ère différente. Les dates ici sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que la date marque l'inauguration d'une autre manière de penser, en relation avec un enseignement qui est délivré successivement par Moïse pour les juifs et les prophètes antécédents, mais Moïse est un moment extrêmement important dans cette histoire des prophètes, pour Jésus de Nazareth, pour les chrétiens, et pour Mohammed, avec Mohammed, pour les musulmans. Ça marque donc des points de rupture à l'intérieur de l'histoire du monothéisme. Ce sont des points de rupture, parce que Jésus de Nazareth est un juif qui parle en tant que juif à l'intérieur de la synagogue, mais qui dit des choses tellement différentes par rapport aux précédentes que ça va créer un nouveau départ, une nouvelle version, une nouvelle manière de regarder la parole de Dieu et de pratiquer la parole de Dieu et de se relier à la parole de Dieu. Même chose va intervenir avec Mohammed et le Coran. Il y a rupture avec les deux précédentes versions du monothéisme. Alors, je dis rupture pour que nous étudions la signification de cette rupture. Car nous constatons bien que chaque communauté qui s'est formée après cette rupture ne se soucie d'aller se poser des questions d'ordre historique pour savoir quel est le sens de ces ruptures. Pourquoi ces ruptures? Et quelle importance donner à ces ruptures? Aujourd'hui, quelle signification donner à ces ruptures? Dans chacune des trois versions du monothéisme, chaque communauté développe l'idée que les juifs, bon, ils ont tout reçu déjà. Ils n'ont plus rien à recevoir. Et ils ne reconnaissent pas la voix de Jésus comme la voix du Messie qu'ils attendaient. Donc ils s'arrêtent. Les musulmans, quand le prophète va parler, eh bien, il va aussi créer des ruptures théologiques à la fois par rapport au judaïsme et par rapport au christianisme. Et donc les musulmans vont s'arrêter de regarder cette rupture. Qu'est-ce qu'elle a engendré? Qu'est-ce qu'elle a généré en termes d'histoire de la pensée, pas en termes de vérité de ce que dit le Coran, de ce que disent les évangiles, de ce que dit la Bible. Ce que je vous dis là, chers auditeurs, est d'une extrême importance aujourd'hui. Parce que c'est à cause de ces ruptures qui ont généré un repliement sur soi, un repliement sur sa propre vérité, qui n'est plus soumise aux enseignements que nous apportent les historiens modernes, qui sont en train d'étudier ces ruptures et de donner les significations de ces ruptures. Eh bien, les ouvrages écrits par les grands historiens modernes ne sont pas lus par les croyants des diverses communautés. Dans la communauté juive, il y a de grands savants, il y a des élites qui lisent, mais elles ne lisent pas, même les élites, ne lisent pas nécessairement ce qui se dit sur la rupture islamique, ce qui se dit sur la rupture chrétienne. Je signale, par exemple, deux grands noms de très grands philosophes. Un juif, Lévinas, Emmanuel Lévinas, professeur à la Sorbonne, comme moi, que j'ai connu à la Sorbonne, et le nom de mon ami qui vient de mourir, Paul Ricoeur, grand philosophe, protestant, croyant. Ni l'un ni l'autre ne s'est véritablement intéressé au parcours historique de la pensée islamique. Ils n'ont jamais mentionné dans leurs écrits nombreux, mais je dois dire aussi combien de oulamas musulmans et combien d'intellectuels musulmans modernes lisent les productions des juifs et des chrétiens sur leur propre parcours historique. Il y a là des ignorances même au niveau des couches les plus cultivées qui devraient se préoccuper justement de cette chose-là. Il est vrai qu'ici, je suis obligé de parler de la fameuse laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Mais je vais réserver, parce que c'est trop compliqué, et il me faut au moins une émission, au moins les 10 minutes, pour pouvoir vous expliquer comment la laïcité a contribué à éloigner les uns et les autres, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes et d'autres religions, ont éloigné toute la croyance religieuse de ces expressions traditionnelles telles qu'elles sont transmises par la tradition, parce que la modernité nous dit quelque chose de nouveau que nous sommes obligés d'écouter, que nous sommes obligés d'intégrer, quitte à discuter, quitte à échanger, pour justement essayer d'avoir une nouvelle manière de parler et de la position religieuse, de la raison religieuse d'un côté, et de la raison moderne de l'autre côté. Ça, c'est un grand nœud de notre vie actuelle dans les sociétés européennes, mais aussi dans toutes les sociétés du monde contemporain. À bientôt donc, pour demain, nous reviendrons sur le fil conducteur que je ne perdrai pas. Bonsoir à tous, Sahaftoukoum. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de notre longue conversation. J'ai surtout parlé dans la dernière émission de la dimension religieuse de l'histoire, en mentionnant l'histoire des écritures saintes, comme on les appelle, ou des livres fondateurs, en tant que livres religieux. Mais il y a la dimension historique profane, l'histoire des sociétés et l'histoire politique. À la mort du prophète en 632, nous entrons dans la phase profane, qui reste évidemment influencée par des références religieuses, et en particulier au Coran, qui est devenu une référence incontournable, car nous entrons dans le politique, dès la mort du prophète, qui va succéder à Mohammed, à la tête de la nouvelle cité politique, qui vient de naître, pratiquement, dans les 10 dernières années à Médine. Voilà le problème. C'est un problème d'ordre politique. Mais en ce temps-là, on ne pouvait pas résoudre les problèmes politiques sans se référer à la fois aux coutumes qui existaient déjà avant l'islam et qui réglaient la prise et l'exercice du pouvoir dans une société tribale. Et on ne pouvait pas non plus ne pas se référer aux nouvelles dispositions, aux nouvelles conceptions de la société et du pouvoir politique qui viennent d'être définies et mises en place par le prophète Mohammed et surtout par tout ce que le Coran a dit, car le Coran touche de très près à des problèmes politiques et à des problèmes juridiques de l'organisation de la cité. Donc les choses vont se compliquer. Ça n'est plus seulement une histoire religieuse, ça va être une histoire inextricablement mêlée avec l'intervention du religieux, de l'instance religieuse, mais pas uniquement de l'instance religieuse coranique. Car l'instance religieuse polythéiste continue de vivre dans toutes les sociétés de la Méditerranée, et pas seulement en Arabie. Or, l'islam va sortir des limites de l'Arabie. Il va commencer à se répandre, d'abord dans les cités et les pays de ce que nous appelons aujourd'hui le Proche-Orient, et au-delà du Proche-Orient, il va aller du côté de l'Iran, et même très tôt pousser progressivement d'année en année et de siècle en siècle jusqu'à l'Indonésie. Très tôt, déjà à partir de 642, on est en Égypte et on va aller en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maghreb, et on va monter en Espagne et on va monter encore plus au nord en 732. Vous voyez, 632, 732, exactement un siècle. Un siècle, c'est beaucoup, bien sûr. Mais quand même pour le temps où l'on marchait à pied, avec soit des chameaux, soit éventuellement des chevaux ou des mulets. Eh bien, c'est toujours le pas de l'homme, presque. Car l'homme marche au pas du chameau, ou le chameau à la vitesse du pas de l'homme. Donc nous sommes à la vitesse du pas de l'homme. Il faut mettre ça en tête et s'imaginer ce qui s'est passé dès 632. Les historiens sont étonnés devant la relative rapidité de l'expansion de l'islam dans la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Et ça, c'est une très grande page d'histoire politique, d'histoire économique, bien sûr, mais aussi d'histoire culturelle et d'histoire scientifique et intellectuelle. Je ne vais pas vous raconter cette histoire, mais enfin, il faut retenir ici quelque chose de très important pour comprendre toujours l'actualité. N'oubliez pas que nous parlons de l'islam hier, demain, d'hier à demain, en passant par notre présent, bien sûr. Notre présent est marqué par les faiblesses sur tous les plans de ce qu'on appelle l'islam. L'islam en tant que civilisation, l'islam en tant que culture, l'islam en tant que pensée, l'islam en tant qu'activité scientifique, l'islam en tant qu'organisation politique de la cité, etc. L'islam est en état de faiblesse. Malgré tout le bruit qui est fait autour de l'islam, les musulmans souffrent dans leur société. À partir de 632, 642, c'est au contraire l'épanouissement, l'ouverture des espaces géopolitiques et géoculturels et géohistoriques devant la nouvelle religion et les nouveaux porteurs de cette religion. Et il y a une dynamique historique. Comme j'ai parlé déjà de la dynamique historique en Europe, l'islam a connu sa dynamique historique entre 632 et quelle date limite allons-nous retenir pour le commencement du retrait de l'islam, le commencement de l'affaiblissement de cette dynamique? Eh bien, il y a une première date, c'est 1258. 7 siècles d'histoire, c'est beaucoup. Eh bien, 1258, c'est la chute de Bagdad, la fin du califat abbasside à Bagdad et la fin du califat, du régime califal, qui a été créé à partir de 661. Car 661, c'est la prise de pouvoir à Damas par le calife Muawiya. Muawiya, de la famille des Banu Soufiane, c'est-à-dire des ennemis du prophète et de ceux qui ont refusé la révélation à la Mecque lorsqu'elle a commencé avec le prophète. Et ici, donc, nous voyons une histoire extrêmement compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'islam monte, il connaît une ascension de civilisation, une ascension dans l'ordre de l'économie et de toutes les sciences pendant ces 7 siècles, et après ces 7 siècles, il va y avoir, comme je l'ai dit, un retrait. Mais pas un retrait total. J'ai dit 1258, chute du califat, 1453, c'est une grande date à retenir. Parce que les Ottomans, les Turcs ottomans, s'emparent de la grande capitale de Byzance, qui est une grande civilisation et qui est le lieu de naissance d'un point de départ de la christianisation et du Proche-Orient et de l'Europe, car l'empereur byzantin Constantin s'est converti au christianisme au 3e siècle après Jésus-Christ, et il a été l'instigateur et il a été celui qui a impulsé un grand mouvement de christianisation dans tout le pourtour de la Méditerranée. De même que Omar ibn al-Khattab a fait la même chose pour l'islam. Nous reviendrons à ces points importants. J'évoque, comme vous le voyez, des points extrêmement utiles pour nous faire réfléchir sur la montée, je dirais le dynamisme et même la gloire de tout ce qui touche à la cité musulmane pendant 7 siècles, mais aussi il va falloir parler et expliquer les siècles du recul, les siècles de la régression jusqu'à nos jours. À demain, si vous le voulez bien. Bonsoir à tous, Sahaf Tolkoum, et nous poursuivons le fil conducteur que j'essaye de mettre en place pour vous permettre de réfléchir avec ceux qui étudient la pensée islamique au développement historique de la connaissance et de l'activité intellectuelle dans les pays musulmans. J'ai dit que 1453 était une date extrêmement importante, c'est la conquête de Constantinople et donc le début d'un grand empire musulman sous l'égide des sultans ottomans. Ils s'appellent des sultans, ils ne s'appellent pas des califes. Vous voyez ici, je m'arrête parce que c'est important. Voilà des choses qu'il faut comprendre pour ne pas tout mélanger. Sultan, c'est le mot arabe sultan. Sultan veut dire le pouvoir politique contraignant, qui contraint chaque sujet. Il n'y a pas encore de citoyen en ce temps-là. Le concept du citoyen apparaîtra en Europe à partir du XVIIIe siècle. Il y a des sujets du roi, où il y a des rahaya, comme on dit en arabe, des sujets, des administrés du calife. Alors, la différence entre khalifa veut dire le vicaire. Comme le pape est le vicaire du Christ, le calife est le vicaire du prophète Mohammed. Il y a donc une succession dans une légitimité religieuse qui est reliée à la légitimité du prophète lui-même de son vivant. C'est cela que veut dire khalifa. Mais si sur le mot khalifa, il y a eu scission à l'intérieur des musulmans. Et cette scission remonte à 661, car il y a eu un combat sanguinaire, dès la mort du prophète, au sujet de la succession du prophète. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali sont considérés par les musulmans sunnites comme les Khulafa Rashidun, c'est-à-dire orthodoxes, bien guidés, qui ont marché dans l'Huda, la voie tracée par la révélation par le Coran. Ça, c'est la représentation sunnite de la succession du prophète. Mais les chiites musulmans n'ont pas du tout le même regard, n'ont pas du tout la même notion de la légitimité du califat. Voilà pourquoi les chiites n'utilisent jamais le terme khalifa. Ils utilisent le terme imam, al-imam. L'imam qui est celui qui dirige la prière. Or, diriger la prière est un acte religieux, fondamentalement religieux. Et donc, on insiste ici sur une proximité spirituelle, mais aussi une proximité charnelle du successeur du prophète, puisque c'est Ali, gendre du prophète et cousin du prophète, c'est Ali qui aurait dû, selon la fraction chiite, succéder à Mohammed en 632. Cette fissure-là qui s'appelle Al-Fitnatul Kubra, la grande querelle à l'intérieur de l'islam. Il faut bien comprendre que cette grande querelle se situe à la fois au cœur de la transmission de la révélation, de l'intelligence de la révélation et de l'application stricte de la révélation quand nous allons passer à la légitimité politique du chef de la cité musulmane. Ce problème de la légitimité de la succession est encore ouvert dans l'histoire de la pensée théologique musulmane. parce qu'il n'a jamais été résolu. Il y a eu des débats. Il y a eu beaucoup de livres écrits que nous avons cessé d'étudier et d'enseigner, et on se contente de s'entretuer, comme hélas nous l'observons, sans avoir réfléchi et sans avoir étudié, là encore, avec les outils de l'historien moderne, pas simplement avec une croyance nue. J'appelle croyance nue celle qui refuse de connaître, celle qui refuse d'étudier, celle qui se contente de répéter ce que l'on a entendu et que l'on a transmis dans la tradition sans se poser des questions. Et jusqu'à présent, par conséquent, les musulmans n'ont pas véritablement pris en charge le sens, les enjeux de la querelle religieuse et politique qui a divisé les sunnites et les chiites, mais aussi une troisième direction qui a existé fortement au temps des Khulafa Rashidun et au temps de la scission qui a abouti à l'arrivée au pouvoir de Muawiyah en 661 à Damas. Ce sont ceux que l'on appelle les Khawarij, les Kharijites. C'est une désignation polémique. Ça n'est pas la désignation que ce groupe de musulmans s'est donné à lui-même. Parce que c'était aussi des musulmans qui défendaient une autre conception de la légitimité politique après le prophète et de la légitimité religieuse. Je ne vais pas insister là-dessus parce que, encore une fois, nous n'avons pas le temps, mais il faut attirer l'attention sur le fait que jusqu'à nos jours, cette question-là n'est pas résolue. Et elle n'est même pas exposée d'une manière objective, car l'historien est objectif. Il n'opte ni pour les sunnites, ni pour les kharijites, ni pour ceci, ni pour cela, ni pour les mu'tazilites. L'histoire, l'historien est un juge d'instruction qui doit instruire des affaires de discordance, des affaires de lutte, de conflit dans la société, et rendre compte de ces conflits tels qu'ils se sont passés en expliquant les enjeux et les significations de ces conflits sans jamais prendre parti. C'est pourquoi j'insiste, et moi je suis un historien, et les auditeurs, j'espère que vous vous rendez compte de la manière dont je vous expose tous ces problèmes relatifs à l'islam comme religion, à l'islam comme pensée, à l'islam comme culture. Je ne prends pas parti. Je ne vous dis pas celui-ci est supérieur à celui-là. Je préfère cette position à celle-là. Et je ne vous le dirai pas. C'est cela l'exercice intellectuel critique de l'historien. À la prochaine fois. Bonsoir à tous. Sahaf Tolkoum. Nous nous retrouvons donc pour la huitième causerie. Nous avons déjà dit beaucoup de choses qui, j'espère, vous ont ouvert déjà beaucoup d'horizons de connaissances et surtout, j'espère, vous ont inspiré l'idée de lire des ouvrages pour compléter et développer ce que je vous ai dit de façon très rapide. Dans cette causerie d'aujourd'hui, je vais compléter le cadre chronologique que nous avons entamé déjà dans les trois dernières causeries, le cadre chronologique de l'histoire de la pensée islamique. Je reviens toujours sur la différence entre l'histoire de l'islam comme religion et l'histoire de la pensée, c'est-à-dire de l'activité intellectuelle, de l'activité scientifique qui a été développée dans les pays devenus musulmans, dans l'empire musulman, déjà sous les Omeyyades, ensuite sous les Abbasides, et cette activité intellectuelle a été intense, variée, diverse, et donc il faut avoir le cadre chronologique de toute la ligne historique du développement de la pensée ainsi définie dans les contextes islamiques. Nous avons parlé déjà de la date de 1258 qui, je vous le rappelle, marque la fin politique du califat. Mais cela ne signifie pas nécessairement l'arrêt de l'activité intellectuelle dans les différents pays musulmans. Il faut donc retenir la date de 1492. Il y a un double événement en 1492 qui va marquer l'histoire ultérieure de la pensée dans les pays musulmans en comparaison avec l'histoire de la pensée en Europe et surtout dans l'Europe méditerranéenne où islam et chrétienté se rencontrent, sont toujours face à face et donc il y a lieu de suivre la ligne de développement des deux pensées, la pensée européenne sous l'égide et le contrôle théologique du christianisme catholique, mais aussi à partir du XVIe siècle, il va y avoir une autre forme de christianisme qui va émerger et qui va changer les conditions d'évolution de la pensée religieuse du côté chrétien, alors que du côté musulman, nous allons voir que les choses vont se passer de façon différente. Donc, cette date de 1492 est très très significative pour bien comprendre la suite des deux développements, car maintenant nous allons suivre les deux lignes de développement, en Europe et en islam. Donc le premier événement qui intéresse directement l'islam comme religion et les sociétés musulmanes, c'est l'expulsion définitive des musulmans d'Espagne, de l'Andalousie, par Isabelle la catholique, à la suite de l'inquisition catholique conduite contre la présence des musulmans en Espagne, après des guerres qui ont commencé déjà entre l'islam avec les Almoravides et les Almohades en Andalousie, et puis les guerres intestines des Tawaïf, ce qu'il s'est développé des Tawaïf, c'est-à-dire des clans, des formations conflictuelles en Andalousie musulmane. Et donc ça a abouti à la chute de Grenade, la dernière ville musulmane, et à l'expulsion de tous les musulmans qui restent pour nettoyer, si je puis dire, toute l'Andalousie de la présence musulmane, mais aussi en même temps de la présence des juifs. Les juifs et les musulmans ont été expulsés par l'autorité catholique en même temps. Et donc les juifs ont une mémoire très forte, aussi forte que celle des musulmans dans cette position de l'Église catholique vis-à-vis des deux religions qui, elles aussi, sont des religions, nous l'avons dit suffisamment, monothéistes, des religions qui réfèrent toutes les deux à la Bible et des religions qui réfèrent à la série des prophètes qui y ont parlé et qui ont alimenté, si je puis dire, tous les grands récits fondateurs de la foi juive et de la foi chrétienne dans la Bible. C'est très important donc de bien comprendre cette position théologique du catholicisme face à deux communautés qui, entre elles aussi, ne s'entendent pas, nous le savons, et qui sont mises ensemble dans le rejet de deux grandes dimensions, de deux grandes versions du monothéisme. Cela marque l'intolérance religieuse qui existe à l'intérieur des trois religions monothéistes. Et cette intolérance a duré pendant des siècles, elle va se développer encore plus après 1492, car les musulmans, comme les juifs, vont garder une sorte de blessure de cette interruption brutale d'une grande culture, d'une grande civilisation qui s'est développée en Andalousie. Évidemment, je ne dis pas du tout cela à titre polémique, mais à titre de rappel historique, pour comprendre comment fonctionne la théologie aussi bien à l'intérieur du christianisme qu'à l'intérieur de l'islam et à l'intérieur du judaïsme. Autrement dit, aucune des religions ne peut crier victoire, parce que toutes les trois ont une théologie d'exclusion de l'autre. C'est ce point-là qui est un point d'histoire, et non pas de polémique, que je voudrais faire comprendre pour créer la nécessité aujourd'hui d'enseigner l'histoire de ces trois théologies qui s'excluent mutuellement et faire comprendre pourquoi elles s'excluent, avec quels arguments elles s'excluent et avec quelles justifications religieuses elles s'excluent. J'y reviendrai demain, Inch'Allah. Masa al-khir wa sahhaftoukoum. Nous poursuivons l'explication entamée hier au sujet des conflits entre les théologies chrétiennes, musulmanes et juives, illustrées par l'expulsion des juifs et des musulmans d'Espagne en 1492. Je vous rappelle qu'en 1492, l'Empire ottoman est déjà installé à Istanbul, qui était Constantinople, je vous l'ai déjà dit, la capitale de l'Empire byzantin. Autrement dit, il y a une nouvelle puissance politique de l'islam. L'islam a un regain de puissance avec l'arrivée de l'Empire ottoman. Et je vous ai dit que cet Empire ottoman a sous son contrôle tout le sud de la Méditerranée, depuis l'Irak jusqu'à l'Algérie. Et il a aussi le contrôle d'un certain nombre de pays européens de l'Est, comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, et jusqu'à la Yougoslavie, où nous avons les musulmans de Bosnie-Herzégovine, dont nous nous souvenons très bien avec la tragédie qu'ils ont vécue dans les années, début des années 90, et la guerre déclenchée par les Serbes avec Milosevic, qui voulait éradiquer la présence des musulmans qui date de cet empire ottoman. Autrement dit, nous avons là encore une page d'histoire qui est une histoire politique, mais toujours en relation avec les conflits et les rivalités entre les religions, parce que ce sont toujours les religions qui apportent la légitimité aux guerres que des pays engagent les uns contre les autres. Et ceci va durer pratiquement jusqu'à la Révolution française en 1789. Je reviendrai sur cette date qui est également une date très très capitale pour la compréhension de ce qui va se passer dans les siècles du 15e siècle, fin du 15e siècle, jusqu'à 3e millénaire, c'est-à-dire notre 2007. Donc, le fait que les musulmans soient chassés d'Espagne a été pénible, évidemment, pour les populations de ce temps-là. Ils se sont répandus dans le Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais aussi en Proche-Orient, en Égypte, etc. Et ces Andalous, expulsés d'Andalousie, ont vécu des souffrances parce que l'Andalousie, nous le savons, est devenue une terre de tolérance justement entre les trois religions pendant que l'islam était là. Et voici que le christianisme de ce temps-là se révèle bien plus intolérant que l'islam de ce temps-là. Ça aussi, il faut le souligner, c'est un fait d'histoire. C'est parce qu'il y avait en Andalousie une culture très ouverte. Et il y avait aussi la présence d'une culture philosophique. Et je reviens toujours à cette philosophie, parce que la philosophie ouvre l'esprit en développant l'idée d'une raison qui ne fait pas de différence entre les humains et qui fait simplement des différences entre les types de connaissances que réclame chaque société et chaque peuple s'exprimant dans des langues différentes. Autrement dit, la philosophie contrôle uniquement la valeur de la connaissance que réclament les peuples, que réclament les langues. Elle ne contrôle pas la religion à laquelle appartiennent les différents peuples. Ça, c'est une différence capitale qui va triompher d'ailleurs avec la raison moderne. Et voilà pourquoi il faut revenir à la présence de la culture philosophique en Andalousie, qui a créé cet esprit de tolérance pendant que la pensée islamique était là, alimentée de la pensée philosophique. Et je vous rappelle que le grand philosophe Averroès est mort en 1100
98, c'est-à-dire la fin du XIIe siècle, et qu'il a laissé une œuvre extrêmement importante. Il y a aussi d'autres que je ne peux pas nommer, comme Ibn Tufayl, l'auteur de Hayy ibn Irvan, bien connu, et qui est un roman philosophique qui est lu en Occident et qui est lu partout, et que malheureusement maintenant on a oublié, comme on a oublié beaucoup d'autres livres historiques. Donc, tenons compte de l'existence de l'Empire ottoman. Mais aussi, je signale deux autres empires, grands empires musulmans, qui se forment à la même époque. En 1507, il y a l'Empire safavide persan qui s'installe également en Iran. Ceci est important à l'intérieur de l'islam cette fois-ci, parce qu'il y a une fissure théologique qui va s'introduire en islam, puisque le chiisme imamien en Iran va être déclaré religion officielle du nouvel état sassanide. Et le premier Shah Ismail fait lire dans toutes les mosquées une shahada qu'il va modifier. Il va ajouter « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa aliyun maulahu. » Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas s'énerver de cette addition. Il ne faut pas dire que ce sont de mauvais musulmans. Il faut constater le fait, qui est un fait d'histoire. Et il faut constater les origines de cette décision dans l'évolution de la théologie imamienne chiite par rapport à la théologie sunnite. Et il faut aussi, en tant qu'historien, s'interroger sur l'état de la réflexion théologique dans le monde sunnite et dans le monde imamien au début du XVIe siècle. Autrement dit, il faut se mettre au travail, il ne faut pas s'énerver et clamer immédiatement l'hérésie des uns et l'orthodoxie des autres. Car c'est ce qui s'est passé pendant des siècles. Et c'est ce que les catholiques ont fait, en déclarant les musulmans et les juifs hérétiques, et le catholicisme, seule religion vraie. Et cela, encore une fois, l'objectif, et mon objectif dans ces cours, ces sortes de cours que nous poursuivons pendant le mois de Ramadan, c'est précisément de sortir de la mentalité de l'excommunication, soit à l'intérieur de l'islam, soit de l'islam par rapport aux autres religions, et soit aussi des autres religions par rapport à l'islam. C'est réciproque et c'est très étendu. Donc il y a là quelque chose qui se passe à propos des religions. En même temps que je vous explique tout ceci, je vous explique quelque chose de décisif et de vital pour les carnages que nous sommes en train de vivre au nom des religions. Je vous enseigne l'idée libératrice que nous devons relire l'histoire de toutes nos religions. Qu'il s'agisse des religions devenues minoritaires et qu'on appelle des sectes, ou qu'il s'agisse des religions majoritaires qui s'appuient sur l'État et que l'État adopte comme religion officielle. C'est cela que je veux mettre en valeur pour amener les auditeurs à aller lire les ouvrages nombreux et importants qui traitent de tous ces sujets-là et que nous n'enseignons pas encore dans nos écoles à nos élèves. Car il faut enseigner ça à nos élèves pour les libérer dès leur jeunesse et pour qu'ils regardent la religion non pas avec mépris en disant que c'est dépassé, ce qui se fait en Occident, ou bien regarder la religion comme nous le faisons en islam, comme la planche de salut suprême qui va nous tirer de tous nos ennuis, c'est possible à condition de revenir sur la question de l'hérésiographie, c'est-à-dire l'histoire des sectes, l'histoire des ruptures à l'intérieur des religions, l'histoire des schismes, comme on les appelle aussi, à l'intérieur de religions. Tariq al-firaq, tariq al-milal ou nihal, ce sont les titres des livres qui ont été écrits en arabe depuis longtemps sur justement les divisions à l'intérieur de l'islam en sectes. Et ça se trouve aussi dans le christianisme. À la prochaine fois.
Bonsoir à tous. Sahaf Turkoum. J'espère que vous avez toujours un peu d'attention, bien que vous soyez légitimement attiré par la rupture du jeûne, car le fil conducteur ne doit pas être perdu. Notre dernière conversation portait sur la légitimité du pouvoir en islam et sur le vocabulaire musulman pour parler de la légitimité. Je vous ai expliqué la différence entre ce que les chiites appellent l'imama, imam, qui est le chef spirituel et politique de la cité musulmane, le khalif, le calife, qui est aussi pour les sunnites le successeur légitime, et maintenant avec les ottomans, il y a le sultan. Cela veut dire que les ottomans sont considérés comme des agents venus de l'extérieur. Car après tout, les Banu Sofiane et les Banu Hashim appartenaient tous les deux, ce sont des clans de la tribu des Quraysh, tous les deux des Arabes ancrés dans les coutumes et les traditions arabes avant l'islam. Ici, nous avons affaire à une autre ethnie, les Ottomans, les Turcs, qui prennent le pouvoir politique et qui vont créer un vaste empire qui va s'étendre de l'Irak jusqu'à l'Algérie. Et non seulement l'empire au sud de la Méditerranée, un empire arabo-musulman, mais aussi l'Est européen, ce qu'on appelle les Balkans. Car les Turcs occupent la Grèce, la Grande Grèce. Ils occupent l'ex-Yougoslavie et aussi la Roumanie, la Hongrie. Et les Turcs ont même assiégé Vienne en Autriche. Mais ils ont échoué en 1683 devant Vienne. Et donc là, nous avons affaire à l'histoire de la Méditerranée et aux rivalités entre le nouvel empire musulman sous les Ottomans et l'Europe ascendante qui a commencé son ascension depuis le XIIIe siècle et qui au XVIe siècle, depuis le XIIIe siècle et qui au XVIe siècle va être une puissance assez importante pour tenir tête à l'Empire ottoman et pour finalement vaincre l'Empire ottoman à partir du XVIIIe siècle et pour finalement, surtout au XIXe siècle, avec la montée du capitalisme en Europe et les grandes puissances européennes de l'Ouest européen, eh bien nous entrons dans la période moderne avec la colonisation et tout ce qui s'en est suivi. Et c'est là qu'il faut montrer les limites de l'Empire ottoman qui, sur le plan de la vie intellectuelle et sur le plan de la vie culturelle, n'a pas pris en charge les héritages laissés par le moment dynamique de l'islam dont j'ai déjà parlé précédemment, du 7e siècle jusqu'au 13e siècle. Car la pensée islamique va connaître des retraits par rapport à ce qui s'est passé en Andalousie, que je n'ai pas encore mentionné, l'Andalousie en Espagne, où s'est écrite également une très grande page de culture, de vie intellectuelle, de vie artistique, de créativité dans tous les domaines, mais qui a fini en 1492. 1492, voilà encore une date que tous les musulmans doivent connaître pour réfléchir sur les conséquences et les suites historiques de cette date. Car 1492, il y a deux grands événements. L'Europe découvre le continent américain et va s'installer dans le continent américain. Et le continent américain tout entier va devenir européen. C'est une immense date, ça, qui rompt complètement l'équilibre, qui était simplement limité aux rivalités dans la petite Méditerranée, entre la puissance musulmane et la puissance montante des pays européens, mais eux-mêmes, les pays européens, restreints à la petite Méditerranée. Maintenant, c'est l'océan Atlantique et bientôt et l'océan Pacifique, et c'est la conquête du monde. C'est la conquête de la planète monde. Et c'est cela qui va faire la différence définitivement de l'Europe et du parcours historique de l'Europe, devenue l'Europe-Amérique, avec les développements de l'Amérique, surtout maintenant, d'un côté, et de l'autre côté, ce qui, justement, progressivement, va devenir, avec la colonisation et même après la décolonisation, ça va devenir ce que nous appelons aujourd'hui le reste du monde, mais que nous avons appelé, entre la réunion des non-alignés à Bandung en 1953, Nasser, Tito et Nehru se sont réunis en Indonésie à Bandung en 1953. En ce temps-là, c'était la guerre froide entre le monde libre, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis et l'Amérique du Nord, et l'Union soviétique. C'est encore une page d'histoire qu'il faut étudier parce que elle peut nous renseigner sur la situation actuelle des sociétés musulmanes. Mais c'est une autre page qu'il va falloir aborder une prochaine fois parce que elle demande encore beaucoup d'explications. Mais aujourd'hui, pour finir cette présentation, je voudrais insister sur la nécessité pour les auditeurs, s'ils veulent bien suivre et développer et amplifier l'intérêt de ces émissions, qui se veulent didactiques, c'est-à-dire c'est une sorte d'initiation que je donne sur l'approche historique de tous les problèmes de l'islam et des sociétés musulmanes aujourd'hui. Je veux insister sur le fait que l'enseignement de l'histoire moderne, c'est-à-dire critique à la manière moderne, ne se donne pas encore dans les systèmes éducatifs qui sont appliqués dans tous les pays musulmans, parce que nous n'avons pas de professeurs d'histoire bien formés à la méthode historique dans les lycées et collèges de tout le monde musulman, et tout particulièrement dans les pays arabo-turco-irano-musulmans, parce que ces trois grands peuples, ces trois grandes civilisations iraniennes, turques et arabes, il ne faut pas les confondre, chacune a ses ressources et ses richesses, il ne faut pas parler uniquement de civilisation arabe, il faut là aussi ouvrir à l'aide de l'enseignement de l'histoire pour connaître l'histoire générale de ce que nous appellerons ensemble la prochaine fois l'étude de l'espace historique méditerranéen. Cette Méditerranée qui fait parler d'elle, je vous rappelle les entretiens et les processus de Barcelone entre l'Europe, l'Union européenne et les peuples de la Méditerranée en 1995, et cette idée n'est pas perdue, cette idée est toujours vivante, mais il faut comprendre pourquoi elle est aussi envieuse et pourquoi il est extrêmement difficile de lui donner un contenu pour l'avenir de tous les peuples de la Méditerranée. À une prochaine fois.